Madame Figaro.
O.J. Simpson est mort le 10 avril 2024 à Las Vegas, à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui l'image d'une figure très controversée de l'histoire américaine. Pour comprendre, il faut remonter 30 ans en arrière, en 1994. Cette année-là, on inaugurait le tunnel sous la Manche, on allait voir The Mask et Pulp Fiction au cinéma, et on portait toutes des débardeurs en lycra en écoutant The Rhythm of the Night de Corona à la radio. Au même moment, la star du football américain O.J. Simpson était arrêtée et inculpée pour le double meurtre de son ex-femme Nicole Brown et d'un ami Ronald Goldman, écrivant les premières lignes de l'une des plus fascinantes affaires criminelles. Dans cette mini-série consacrée aux affaires qui ont entaché le monde du sport, la journaliste Camille Maestrachi revient sur les circonstances du crime, mais aussi sur le procès fleuve et l'acquittement spectaculaire de celui qu'on surnommait The Juice. Je suis Marion Galli-Ramouno. Bienvenue dans Scandale.
Did O.J. Simpson commit murder?
Coupable d'homicide involontaire.
She was a teenage champion and then her life took a dramatic turn.
Please welcome the extraordinary Simone Biles.
This guy put a knife in my back.
Left-handed hook shot.
He was beating you and abusing you.
Oscar Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend.
All I can say is the athletes did not look happy.
I only asked you to give me that.
Je vous ai seulement demandé de faire preuve de courtoisie, de me traiter comme je vous ai traité. J'ai demandé aux médias de publier les faits. Et je vous le répète, je n'ai que de la compassion pour les Goldman et les Brown. Mais j'ai perdu autant que vous. J'ai perdu plus que vous parce que j'ai perdu une personne que j'aime. Moi aussi, j'ai tout perdu. Je vous le jure devant Dieu, je n'ai pas commis ces crimes.
Ces mots sont ceux d'O.J. Simpson en 1996. C'est sa première interview, après avoir été acquitté du double meurtre de son ex-femme Nicole Brown et de Ron Goldman. On entend O.J. demander au public un peu de répit et de paix, alors que le verdict du procès continue de susciter colère et indignation pour une bonne partie des Américains. Car avant d'être O.J. le paria, il était O.J. la superstar.
O.J. Simpson, auquel maintenant on associe la question du procès, le meurtre de son ancienne compagne, était avant ce fait divers une très grande star aux États-Unis, l'un des plus grands joueurs de football américain de l'histoire.
François-René Julliard est agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine à l'Université de Clermont-Ferrand et auteur d'une thèse sur les athlètes noirs américains.
Le joueur star de football américain des années 70, le premier sportif noir à faire des publicités télévisées pour Hertz, pour Chevrolet, pour des grandes marques américaines qui jusqu'ici étaient assez frileuses de présenter un noir américain comme porte-étendard de leur marque. Et alors il s'était reconverti avec un certain succès dans le commentaire sportif. Donc c'était une figure à la fois très populaire et voilà, donc qui était une success story alors qu'il avait des origines modestes, qu'il avait été dans un gang quand il était jeune. Enfin bref, c'est ce que les Américains appellent une rags to riches story, c'est-à-dire une histoire de haillons à la richesse, comme les Américains l'aiment beaucoup.
Orenthal James Simpson, dit O.J. Simpson, naît le 9 juillet 1947 dans une banlieue pauvre de San Francisco. Son père est gardien de banque, sa mère administratrice dans un hôpital et il a trois frères et sœurs. Il commence à pratiquer le football américain sur le tard, vers l'âge de 15 ans, mais il est vite repéré par les coachs qui saluent sa vivacité et surtout sa rapidité. C'est d'ailleurs de là que lui vient le surnom « The Juice », le jus, parce qu'il explose et se faufile un peu comme du courant électrique. Très vite, il est courtisé par les plus grandes universités et atterrit à USC, une université très élitiste, et c'est important de le préciser, très blanche, en Californie du Sud. C'est là qu'il acquiert une renommée nationale en devenant l'un des meilleurs running backs, donc celui qui porte le ballon, du championnat universitaire. En parallèle, à seulement 19 ans, il se marie avec une jeune afro-américaine, Marguerite Whitley, avec qui il aura 3 enfants. En 1969, il commence sa carrière pro chez les Buffalo Bills, où il enchaîne les records et les titres pendant une dizaine d'années, devenant l'un des sportifs les plus célèbres des États-Unis. Kevin Blackistone, ancien journaliste sportif, désormais chroniqueur au Washington Post et commentateur sur la chaîne sportive ESPN, se souvient de l'aura qu'il avait à l'époque.
We grew up watching him play football.
On a grandi en le regardant jouer au football. On a grandi en le regardant jouer à la télévision et au cinéma. On a grandi en le regardant faire des pubs pour les plus grandes marques de ce pays. On a grandi en le regardant commenter dans les médias le sport le plus important de ce pays, la Ligue nationale de football, mais aussi l'athlétisme.
O.J. Simpson termine sa carrière de footballeur en 1979 à 32 ans. Mais il reste très médiatisé pour toutes ses activités annexes, cinéma, commentaires sportifs, publicité, ainsi que pour sa vie privée, pleine de rebondissements. En 1977, il entame une relation avec Nicole Brown, une jeune serveuse, blanche, qui n'a alors que 18 ans. Lui en a 30 et il est encore marié. Il divorce 2 ans plus tard. Quelques mois après, un terrible drame frappe sa famille. O.J. perd sa plus jeune fille, Aren, qui se noie dans la piscine familiale à même pas 2 ans. Il en parlera assez peu aux médias, qui se concentrent davantage sur sa nouvelle histoire d'amour. À l'époque, tout le monde connaît O.J. Simpson. Ensuite, tout le monde connaît O.J. et Nicole. Ils sont riches, jeunes, beaux, ils ont une immense maison dans le quartier cossu de Brentwood, à Los Angeles, et fréquentent le gratin hollywoodien.
C'est un grand plaisir, O.J. et Nicole, de vous déclarer mari et femme.
J'aime The Juice comme mon frère. Je suis ravi qu'il soit mon associé et on est vraiment étonné qu'il ait finalement franchi le pas.
C'est très excitant.
Vous venez d'entendre un extrait du formidable documentaire d'ESPN, O.J. Made in America. Ici, on entend Robert Kardashian et Kris Jenner, les parents de la célèbre Kim Kardashian et toute sa tribu, se réjouir d'assister au mariage d'O.J. et Nicole, prononcé en 1985. Simpson et Brown auront 2 enfants ensemble. Sidney, né fin 85, et Justin, né en 88. Mais derrière cette douce vie, faite de soirées et de paillettes, où tout semble aller pour le mieux, se jouent en réalité les prémices d'un drame annoncé.
Pouvez-vous envoyer quelqu'un chez moi ?
Quel est le problème ?
Eh bien, mon ex-mari ou mon mari vient de s'introduire par effraction chez moi. Il divague, délire. Et maintenant, il est en train de sortir dans la cour d'entrée.
Est-ce qu'il a bu quelque chose ou autre ?
Non, mais il est fou.
Vous a-t-il frappé ?
Non.
Comment vous appelez-vous ?
Nicole Simpson.
Des appels à la police comme celui-ci, Nicole Brown en a passé plusieurs. Alors qu'elle était encore en couple avec O.J., mais aussi après leur divorce, en février 1992. On l'entend pleurer, supplier les autorités d'envoyer quelqu'un pour l'aider, terrifiée que Simpson lui fasse du mal. Nicole a porté plainte contre lui pour violence à plusieurs reprises, photos à l'appui de son visage tuméfié, mais elle n'est jamais allée au bout de la procédure. Et puis un jour, le 12 juin 1994, la violence dépasse l'entendement. Toujours dans le documentaire d'ESPN, voici ce que constate le détective Tom Lange de la police de Los Angeles alors qu'il arrive chez Nicole.
Porte d'entrée grande ouverte, petite musique en fond sonore, des bougies sont allumées à l'intérieur. Une confrontation très violente, une rage. 2 victimes, du sang partout. On trouve un gant, il s'agit d'un gant gauche, sur lequel il y a une trace de sang, ce qui indique que le suspect a été blessé au côté gauche. On comprend donc tout ça lorsqu'on découvre qu'il s'agit apparemment de l'ex-épouse d'O.J. Simpson.
Nicole Brown et son ami Ron Goodman sont retrouvés morts, à moitié égorgés, frappés de plusieurs coups de couteau à l'entrée de la maison de Nicole. O.J. Simpson, qui s'est envolé pour Chicago le soir même pour un événement professionnel, est immédiatement le suspect numéro un. À son retour, le lendemain après-midi, il est arrêté et on lui passe les menottes. Il est interrogé par la police qui lui demande pourquoi il a une blessure à la main, pourquoi on a retrouvé du sang dans sa voiture. L'interrogatoire est lunaire. O.J. est confus et imprécis, mais les policiers ne sont pas très incisifs. Ils finissent quand même par faire un prélèvement ADN, et puis, croyez-le ou non, ils le laissent rentrer chez lui, tranquillement. Cet interrogatoire signe la première étape d'une longue série de négligences qui coûteront cher à l'accusation. Quelques jours plus tard, O.J. Simpson est officiellement poursuivi pour double homicide. À ce moment-là, tout le monde pense qu'il va coopérer. La police organise même une conférence de presse où il est censé se rendre officiellement. 5 minutes passent, 15 minutes, une demi-heure, pas de O.J. Tout le monde se demande où il est passé. Et puis tout à coup, une chaîne de télé repère sa Ford Bronco blanche. Et c'est bien lui, à bord, qui roule à toute vitesse sur la voie rapide de Los Angeles. Ce qui se passe est complètement dingue. O.J. Simpson est en train de prendre la fuite et tout se passe en direct à la télévision. S'amorce alors l'une des courses-poursuites les plus célèbres de tous les temps. Kevin Blackistone.
It happened during the NBA playoffs.
C'est arrivé pendant les playoffs de la NBA, les phases éliminatoires. Je me souviens avoir assisté à un match en particulier à New York, et à la télévision, on a vu O.J. Simpson et son meilleur ami au volant de la Ford Bronco blanche, dont tout le monde se souvient. Cela n'a pas perturbé la diffusion des matchs éliminatoires de la NBA, mais l'écran de télévision était divisé en deux. Ils ont montré ces images côte à côte. Après le match, je me souviens de Pat Riley. C'était l'un des entraîneurs impliqués dans ce match. Je pense qu'il entraînait les New York Knicks à l'époque. Lors de la conférence de presse d'après-match, la première chose qu'il a dite aux médias a été « Mais que se passe-t-il avec O.J. ?»
La scène est hallucinante. O.J. Simpson est assis sur le siège passager et menace de se suicider avec une arme braquée sur la tempe. C'est un de ses anciens coéquipiers, Al Collins, qui conduit. La police a réussi à entrer en contact avec eux avec le téléphone de la voiture. Vous savez, comme dans les films. Ils essaient de raisonner O.J., mais rien n'y fait. Il dit qu'il veut rentrer chez lui. Tout ça dure plusieurs heures. La voiture d'O.J. se dirige vers le quartier de Brentwood, suivie d'une dizaine de voitures de police. Mais aussi, au milieu d'une foule d'admirateurs. Je vous jure, en visionnant les images, j'ai cru qu'on était sur le Tour de France. Quand les gens ont compris que Simpson se dirigeait vers sa maison, ils se sont postés sur son chemin pour le voir passer et pour l'encourager. Une fois arrivé dans sa propriété, à la tombée de la nuit, O.J. et son ami finissent par se rendre. Et Simpson est conduit en détention, en attendant l'ouverture de ce qu'on appellera plus tard le procès du siècle. Je ne vais pas entrer dans les détails du procès, qui s'ouvre en janvier 1995 et qui dure près de 9 mois. C'est un véritable feuilleton à lui tout seul, et qui, je le rappelle, est diffusé en direct à la télévision. Les arguments et contre-arguments de la défense et de l'accusation ont fait l'objet de nombreux livres, de documentaires et de séries télé. Mais il y a quelques éléments qu'il me semble quand même important de resituer pour bien comprendre ce qui se joue. D'abord, O.J. Simpson s'entoure d'une équipe d'avocats féroces que seule une personne aussi riche et célèbre que lui peut mobiliser. Parmi les plus connus, Robert Shapiro, Johnny Cochran ou encore un certain Robert Kardashian. Ensuite, malgré les preuves accablantes qui pèsent sur lui, les traces de sang, l'ADN, le gant, la stratégie de son équipe est de mettre en doute la parole des enquêteurs, dont un en particulier, qui a eu des propos racistes. Aux États-Unis, on dit souvent « they played the race card ». Ils ont sorti la carte ethno-raciale. Enfin, Esther Sina, spécialiste de l'histoire raciale des États-Unis, rappelle le contexte dans lequel s'inscrit le procès.
À Los Angeles, le contexte immédiat, c'est l'après-émeute suite aux violences policières dont a été victime Rodney King. Donc Rodney King, qui est une personne noire, qui a été tabassée hein, vraiment par 4 policiers. Et il y a une vidéo d'ailleurs, ce qui était nouveau à l'époque. Et des émeutes ont suivi, puisque les 4 policiers en question, 4 policiers blancs, ont été acquittés. par des jurés majoritairement blancs. Et donc, il y a cette fracture raciale à Los Angeles autour des violences policières, autour de la justice. Et donc, quelque part, l'affaire O.J. Simpson est un peu un miroir de Rodney King, puisque là, l'homme noir est accusé de violence contre une, enfin de meurtre, hein, contre une femme blanche, et les jurés sont majoritairement noirs.
Si vous additionnez tous ces éléments, que vous y ajoutez 2-3 punchlines, comme la célèbre phrase de l'avocat d'O.J., Johnny Cochrane, à propos du fameux gant retrouvé sur les lieux du crime. « If it doesn't fit, you must acquit. » S'il ne lui va pas, vous devez l'acquitter. Vous vous souvenez sans doute de cette scène devenue culte. On voit O.J. Simpson qui essaie d'enfiler le gant devant le jury. Il en fait des tonnes pour montrer qu'il est trop petit. Un gant en cuir qui a été gorgé de sang, qui a donc durci, et qu'il enfile par-dessus des gants en silicone, ce qui évidemment complique la tâche. Donc, en additionnant tous ces éléments, on arrive au verdict du 29 septembre 1995.
Très bien. Monsieur Simpson, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous lever et vous placer devant le jury. Votre honneur, Madame Robertson.
Cour supérieure de Californie, comté de Los Angeles. Dans l'affaire des habitants de l'État de Californie contre Orenthal James Simpson, affaire numéro BA-097-211. Nous, le jury, dans l'action intitulée ci-dessus, déclarons l'accusé, Orenthal James Simpson, non coupable d'homicide volontaire.
O.J. Simpson est acquitté. Pour une grande majorité de la communauté noire, c'est une victoire. On assiste à des scènes de liesse partout dans le pays. Pour Kevin Blackistone, la symbolique est énorme.
Dans n'importe quelle autre affaire aux États-Unis, si un homme noir était accusé du meurtre d'une femme blanche, il serait reconnu coupable de toutes les accusations pouvant lui être imputées. Donc pour les Noirs qui regardaient ça, voir O.J. être acquitté était stupéfiant. Pendant une courte période, je pense que la communauté noire de ce pays a adopté O.J. Simpson un peu comme un symbole de justice. Enfin pour nous. Qu'ils croient ou non qu'O.J. était coupable, c'est simplement le fait qu'il ait pu être acquitté de ce genre de meurtre. Cette victoire-là était une victoire pour toutes les autres fois. C'est pour cela qu'il y a eu des célébrations dans la rue.
Quelques mois après son acquittement au pénal, O.J. Simpson est à nouveau poursuivi dans le cadre d'un procès civil. Les familles des victimes demandent réparation financière pour la perte de leurs proches. Pour ce nouveau procès, qui se tient à Santa Monica, la composition du jury est tout autre, avec une majorité de blancs. Alors bien sûr, l'impact médiatique est indéniablement moins important et Simpson ne risque pas de peine de prison. Mais il finit par être reconnu coupable de coups et blessures sur Ronald Goldman et Nicole Brown. Il est condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Une somme qu'il ne versera jamais en totalité. À partir de là, O.J. Simpson devient infréquentable. Il est exclu de toutes les hautes sphères de la société. Il n'a plus de contrat publicitaire ni de deal avec aucune chaîne télé. Au début des années 2000, il déménage en Floride, où il habite encore aujourd'hui. Et puis, en 2007, il ressurgit dans l'actualité avec une sombre affaire de séquestration et de vol. En fait, Simpson cherchait à récupérer des affaires à lui, disséminées lors de perquisitions pendant ses procès. Il monte une petite équipe avec des gens peu fréquentables. Il retrouve la trace d'un revendeur et décide de le braquer dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas. Mais l'un des types a une arme et la police intervient. La peine est lourde. Il écope de 33 ans de prison. Une sorte de revanche de la justice, sans doute, qu'il avait laissé libre jusqu'ici. En 2017, O.J. Simpson bénéficie d'une libération anticipée et sort de prison.
Il a un compte Twitter. Si vous allez sur son compte Twitter, de temps en temps, il poste des vidéos dans lesquelles il parle d'un événement qui vient d'arriver et il donne tout simplement son interprétation, son avis. Beaucoup de gens le regardent et c'est juste incroyable. Il n'est plus l'O.J. d'avant, mais c'est un nouvel O.J. Et les gens sont toujours aussi captivés par lui.
Effectivement, sur son compte Twitter, qui compte plus de 800 000 abonnés, il publie régulièrement des vidéos facecam. Il parle essentiellement de football américain, mais fait quelques commentaires sur des sujets politiques ou même sur sa vie personnelle, notamment sur sa santé, comme on peut l'entendre sur cette vidéo datant de février 2024.
Permettez-moi de prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui m'ont contacté. Je suis en bonne santé. Évidemment, je suis confronté à certains problèmes, mais bon, je pense que j'en ai presque fini et je serai de retour sur les terrains de golf, j'espère dans quelques semaines.
O.J. Simpson parle ici sans doute de son cancer de la prostate. En tout cas, il semble qu'il reçoive encore quelques manifestations de soutien de part et d'autre. Même si pour Kevin Blackstone, cela reste anecdotique.
C'est tout ce qu'il peut espérer comme médiatisation. Il est persona non grata. C'est un déchet nucléaire. Je pense qu'aucune entreprise ni qu'aucun média ne parlera plus jamais de lui. Ça m'étonnerait.
Au final, même si l'affaire O.J. Simpson a révélé plus que jamais la fracture raciale toujours présente aux États-Unis, on peut se demander si son acquittement a nui à la cause des Afro-Américains. Pour Esther Sina, le simple fait de se poser la question de cette manière est déjà le signe d'un déséquilibre.
Dans une société raciste, les personnes noires sont tenues comme représentantes de toute une partie de la population. Donc avoir un homme noir, peut-être probablement coupable, acquitté, ça va desservir toute une population qui sera pointée du doigt. Or, on ne tient pas du tout les personnes blanches criminelles ou potentiellement criminelles comme des représentants. On ne dirait pas, par exemple, de Harvey Weinstein qu'il représente les blancs. Alors, il représente peut-être un pan très spécifique d'hommes blancs en position de pouvoir, mais pas les blancs de façon extrêmement généralisante. Or, c'est le cas pour O.J. Simpson. O.J. Simpson, c'est un héros noir, et le fait qu'il soit de façon avérée auteur de violence à des degrés qu'on peut contester, mais auteur de violence, ça va desservir toute une population. Donc c'est ça le côté paradoxal et pervers du procès. Et donc oui, quelque part, peut-être qu'il dessert une cause, mais il n'aurait peut-être jamais dû être érigé comme représentant de cette cause ou comme défenseur de cette cause dès le départ.
Je suis Marion Gailly-Ramouneau et vous venez d'écouter le cinquième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à quelques sombres affaires qui ont terni le monde du sport, écrite par Camille Maestrachi. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. Dans deux semaines, je reviens avec un nouvel épisode sur une folle débâcle amoureuse qui n'a rien à voir avec le sport, quoique, celle de Shakira.